les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Un nouveau rassemblement en soutien au jeune homme de 22 ans, Théo L., victime d'un viol lors d'une interpellation le 2 février à Aulnay-sous-Bois, a eu lieu samedi dernier, le 18 février, place de la République à Paris, à l'appel de SOS Racisme, du CRAN, de la Ligue des droits de l'homme, du MRAP, de la CGT, de la FSU. À 15h, les représentants de ces organisations ont pris la parole sur une estrade montée pour l'occasion. Devant eux, entre 2000 et 2300 personnes, selon les sources. Des militants des organisations citées plus haut écoutent tranquillement. Des anards et autonomes, peu nombreux mais bruyants, font bande à part et crient des slogans comme « Tout le monde déteste la police » ou « Un bon flic est un flic mort ». Des jeunes venus des quartiers populaires d'Île-de-France sont venus aussi d'Argenteuil, de Bobigny et de Stein notamment. Ça n'est pas leur première manif pour soutenir le jeune homme. La plupart de ces jeunes sont déjà descendus dans la rue lors du premier rassemblement la semaine d'avant à Bobigny devant la préfecture de Seine-Saint-Denis. Mais en règle générale, ce sont des jeunes qui ne viennent pas souvent à Paris et se mobilisent rarement. Leur cause peut sembler lointaine ou difficile à comprendre à ceux qui ne vivent pas dans ce genre de banlieue, mais eux savent fort bien de quoi ils parlent et le disent pour une fois. À 16h, le tour de parole des associations est terminé et l'estrade démontée. La plupart des manifestants quittent la place à ce moment-là. Certains, plutôt parmi les anards et les autonomes que parmi les jeunes du 93, restent. Les affrontements avec la police commencent. Ils durent jusqu'à 19h. Au total, 13 personnes sont interpellées, un policier est blessé. D'après l'estimation de notre reporter, on compte 5 blessés légers du côté des jeunes. Des médics, selon la terminologie des manifestants, casqués et vêtus d'un gilet fluo, circulent du côté ou au milieu des manifestants avec un équipement de premiers soins. Le bitume est défoncé, des pavés déterrés et lancés sur les policiers. De leur côté, les représentants de l'ordre ripostent en projetant de très nombreuses grenades lacrymogènes, comme vous pouvez l'entendre dans ce reportage de Rémi Douatte, jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture, in situ.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Bonjour.
Bonjour.
Comment vous appelez ?
Je m'appelle Dali, j'ai 18 ans, je viens de Stein, Clos Saint-Lazare, 93, à côté de Saint-Denis, on vient des quartiers. Là, je suis venu pour la manifestation pour Théo. Bah, je sais pas, les keufs, je sais pas ce qu'ils ont fait, ils l'ont frappé, ils ont dit salement boula et tout ça. En plus, Théo, il avait rien fait, il marchait normalement et tout ça, ils l'ont frappé, ils ont... En plus, il avait rien demandé, il était pas parti en garde à vue et tout ça, sinon, voilà, c'est la vie, hein.
On est fiers d'être là, on est fiers de représenter le 93 pour Théo, parce que tout part de Théo et ses histoires de racisme, de violence envers les jeunes de la cité. Théo, il s'est fait violer, il s'est fait taper. Les policiers lui ont enlevé son rêve. Il était en centre de formation pour devenir un grand footballeur et de ça, connu à la télé et de ça. Il s'est fait attaquer. Ils ont profité qu'il était tout seul dans une cité. Ils étaient plusieurs, les policiers. Ils l'ont tapé et ils lui ont gâché son rêve. On dit que c'est accidentellement, mais c'est du mensonge. Au quotidien, les gens de la cité, on est tout le temps persécutés par les policiers parce qu'on est noir, parce qu'on est arabe, parce qu'on même des blancs comme moi. Moi, je suis un français, je suis blanc et de ça. Et je vous le dis, quand je suis avec mes amis de la cité, on est mal regardé parce qu'on habite dans ces cités-là. Moi, je parle personnellement, je m'appelle Julien Roussel, j'habite à La Courneuve. Je suis en train de préparer ma première aide, je suis dans la ville, là, je suis bien. Moi, je chill pas, je fais pas de problème comme ça, j'ai pas de problème avec la justice. Et même avec une vie posée comme ça, on se fait embrouiller. Rien qu'on descend en bas de notre bâtiment, on est en bas avec des amis à nous, on joue au foot. Pendant des parties de foot, ils viennent, ils nous prennent la balle à deux mains. Et sur un terrain de city où on est une trentaine, quarantaine, ils viennent faire des contrôles d'identité sur 40, 50 personnes pendant une heure et demie. Ils nous empêchent de jouer au foot, ils font des contrôles d'identité. C'est juste de l'abus de pouvoir. Alors qu'on fait rien, on joue au foot, ils viennent nous contrôler. Alors qu'ils nous connaissent depuis qu'on a un an, ils nous connaissent. Ils nous disent, ouais, toi, je t'ai connu dans le perso et tout, fais pas le malin avec nous. Alors qu'on fait pas les malins avec eux. C'est des municipaux, même on les respecte pourtant. On leur dit bonjour et ça parce qu'on a du respect envers eux. Et ils nous chargent, ils viennent nous embêter, contrôle d'identité parce qu'on est des noirs. Ils disent, ouais, vous n'êtes pas de la France. Parfois, rien que quand on est en contrôle d'identité, on sort notre carte d'identité, c'est marqué ouais, français, mais on est noir, on est arabe. Ils me disent ouais, vous n'êtes pas des vrais français, retournez dans votre pays, bande de sales arabes, vous avez voulu votre indépendance, restez là-bas, restez en Algérie et tout ça. C'est honteux de dire ça.
Vous l'avez déjà entendu ça?
Oui, on l'a entendu. On l'entend tous les jours, tous les jours.
Ouais, tout le temps. C'est tout le temps, ça s'arrête pas.
C'est les policiers qui nous cherchent et les policiers qui nous incitent à être violents envers eux qui nous cherchent. Donc nous, après, on répond. Et si on répond pas, on se fait savater gratuitement. C'est complètement honteux.
Justice pour Théo.
Nous, on est là sur la place de la République aujourd'hui pour manifester contre ça, contre l'abus de pouvoir, contre le racisme des policiers et contre un ras-le-bol aussi. Ça fait tellement longtemps que ça dure, c'est un ras-le-bol total. C'est tout.
La mort déteste la police, c'est tout. La mort déteste la police, c'est tout. La mort déteste la police, c'est tout. La mort déteste la police.
Moi, j'ai rien avec les flics. Moi, j'ai rien avec les flics. Hein. J'avoue, quand on marche et tout ça, ils nous contrôlent et tout ça, j'avoue. Ça nous casse les couilles, ça va. On marche normalement, ils viennent nous contrôler, je sais pas pourquoi. Ils vont avec des jeunes avec des casquettes, sacoches. Ils disent, ouais, lui, eux, vas-y, c'est des délinquants. Mais non, ça veut rien dire. Quand je vais prendre mon train pour aller sur Paris, je me fais contrôler directement. Je marche normal, ils disent, moi, contre le mur, comme ça. Mais quand les fouilles, ils fouillent. Vous avez vos cartes d'identité, tout ça. On dit non. Oh non. Après, on vous embarque, ils mettent les menottes et tout ça. 24 heures de garde à vue, ou même ça peut aller 48 heures de garde à vue et tout.
Vous faites souvent des gardes à vue?
Pas souvent, ça va, ça dépend. Ça va, sinon j'en ai fait quoi de ma vie? Cette garde à vue, hein. Voilà, après moi je dis pourquoi vous me contrôlez, j'ai rien fait, je suis dans mon quartier, après voilà, ils nous contrôlent. Hein.
Voilà. Contrôler les gens comme ça, bêtement, c'est de la folie. C'est quoi ces conneries? Qu'est-ce qu'il a fait ce jeune-là, moi, que je lui dis? Parce que les jeunes, le pauvre, ils sont perdus. Il n'y a personne qui l'ouvre le
jeu. Il n'y a personne.
C'est important. Parce que tous ont fait des bêtises. Quand on était jeunes, à l'âge des 17 ans, c'est qui ne fait pas de bêtises? T'as pas fait de bêtises, toi? Même un président l'a fait une bêtise. Alors, c'est vrai ou pas?
Vas-y, hein. Courage.
C'est malheureux, mais ça me...
Voilà, c'est la vie, il faut aussi faire.
Mais il faut se battre, faut se battre jusqu'au bout. Pour contrôle des baisses d'endetté, il faut qu'ils s'arrêtent.
Mais c'est aussi la protestation et la colère de tous ces suiveurs par rapport à toutes les autres victimes. C'est pour cela que nous sommes là. S'il vous plaît, restons dans le fin fond de
ce... Alors moi, mon histoire, c'est... J'ai mon petit frère, Amin Bentounsi, qui a été tué d'une balle dans le dos le 21 avril 2012. J'ai appris ça par téléphone. J'ai vu via la télévision qu'on avait dit que mon frère était un braqueur à ce moment-là. Donc, comme n'importe quel citoyen, j'y ai cru, en fait. Je me suis dit, bon, bah, mon frère, il a joué, il a perdu. C'est bête. Parce que mon frère, c'est un jeune homme... parmi tant d'autres, qui a été tué socialement, qui a subi la discrimination, qui a subi cette violence au quotidien, à qui on n'a jamais fait de cadeau. Alors Amin Bentounsi, ça a été le premier jeune prisonnier de France à 13 ans. Il avait brûlé une poubelle. Il se trouve que cette poubelle se trouvait à côté d'une école qui a commencé à prendre feu. Heureusement qu'il n'y avait pas d'enfants, mais ils ont considéré que c'était un incendie criminel. Et à 13 ans, un juge a décidé de le mettre en prison. 6 mois à Fleury-Mérogis. Et du coup, à ce moment-là, j'ai interpellé ce juge et je lui ai dit « C'est pas possible, vous pouvez pas le mettre en détention, il a que 13 ans. » Il a pas voulu m'entendre et Amine a eu le parcours qu'on lui avait imposé, en fait. Ça a été un parcours chaotique. Après, je ne pense pas que le fait qu'il ait un passé judiciaire doit justifier sa mort, puisque au moment des faits, ils ont dit qu'il était braqueur. Alors, bien souvent, c'est des gentils policiers qui viennent nous voir, qui nous disent « Vous inquiétez pas, toute la lumière sera faite, il faut laisser le temps à la justice. » Et en fait, on se rend compte qu'il y a une enquête du parquet et qu'après, souvent, c'est des prononciations de non-lieu ou des affaires qui ne sont pas instruites. Et je sais pas, il y a une espèce d'intuition, une forte intuition qui m'a dit « Amal, il faut quand même que tu te constitues partie civile et que tu cherches. »
Assassin, puis violent, assassin, puis violent, assassin, puis violent.
Donc le 21 avril 2012, Amine se trouvait dans un café accompagné de deux jeunes hommes. Il s'est soustrait à un contrôle de police. Voilà. Il a vu les policiers venir vers lui, il a pris la fuite, il a jeté son blouson. On dira même qu'il a jeté à ce moment-là une grenade factice. Sur cette grenade, il y a quatre empreintes ADN d'hommes qui n'appartiennent pas à Amine. Alors, soi-disant, Amine avait une arme. Pareil, sur cette arme, il n'y a aucune empreinte ADN qui appartienne à Amine Bentounsi. Au moment des faits, ils ont dit qu'il était braqueur. À la suite de nos appels à témoins, notre mobilisation qui a duré pendant plus de 3 mois sur place, on a réussi à obtenir, à avoir 6 témoins qui se sont manifestés et qui ont dit très clairement qu'ils se sont adressés directement au juge, que Amine Bentounsi courait, qu'il était de dos et qu'à aucun moment il a braqué ce policier. Donc c'est pas un policier qui était en état de légitime défense, c'est pas un policier qui était en panique, parce que ce même policier avait obtenu la note de 26 sur 30 à un exercice de tir qu'il avait effectué une semaine auparavant. Et comme il disait cet expert, les policiers s'entraînent sur des bustes. Quand ils sortent leur arme, c'est pour tirer dans des parties vitales, c'est pas pour blesser. C'était pour le neutraliser, donc ils savaient ce qu'ils faisaient. On ne peut pas dire que c'est involontaire, c'est volontaire. Et c'est le procureur qui a dit très clairement, si vous ne condamnez pas ce policier, c'est lui accorder un permis de tuer. Donc après, le procès a révélé des écoutes téléphoniques à charge contre ce policier, qui révèle un manipulateur, qui révèle le racisme au sein même de la police et de ses collègues. Il y a son collègue qui s'effondre physiquement à la barre et qui dit très clairement « J'ai menti pour protéger mon collègue. J'ai rien vu. Tout ce que je vous ai dit, c'est ce que mon collègue vous a raconté et moi je l'ai répété pour le protéger. » Et il s'est effondré physiquement. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses. Et donc, après tout ça, on avait l'espoir. On s'est dit, c'est bon, là, peut-être que pour une fois, il y a un policier qui va être condamné. Malheureusement, il a été acquitté. Ils ont prononcé un non-lieu. Donc, c'est l'incompréhension totale pour nous, famille de victimes. Comment il se peut qu'un policier puisse continuer à être en liberté, sachant qu'il a tiré une balle dans le dos. Après, je me dis qu'il n'y a plus aucun espoir. Et le lundi d'après, le procureur, donc l'avocat général, a demandé à faire appel de la décision pour qu'il y ait lieu un nouveau procès. Et ce policier va être encore une fois traduit devant une cour d'assises à Paris cette fois-ci. Et on reprend le jugement depuis le départ. Je me sens fatiguée de ne pas être entendue et que depuis 5 ans, des morts, il y en a eu. Et que cette violence, elle continue, qu'au-delà de mon frère, c'est pas un combat uniquement pour mon frère. C'est pour ça que pour moi, il est important qu'on ne fasse pas de l'affaire de Théo ou celle d'Adama des exceptions, mais de bien dire que c'est quelque chose de récurrent et structurel qui existe, et qu'aujourd'hui c'est 15 morts par an, et qu'avec cette loi sur la réforme de la sécurité publique, sur la question de la présomption de légitime défense, qui va autoriser ces policiers à tirer sur n'importe qui après de sommation, qui va permettre l'anonymisation des noms dans toutes les procédures de ces policiers, qui va multiplier les condamnations pour outrage à agents. Les chiffres vont peut-être se multiplier et qu'à chaque fois qu'il y a des violences dans les quartiers, on essaie de dire que c'est ces jeunes-là qui ont commis des violences ou des actes de rébellion ou des outrages envers des policiers. Et souvent, ces jeunes-là ne sont pas entendus et sont condamnés, font de la détention. Par contre, des policiers qui tuent continuent à exercer et ne sont jamais condamnés. Donc cette injustice crée des monstres des deux côtés, puisque imaginez-vous une personne avec une idéologie malveillante qui viendrait à rentrer dans la police uniquement pour assouvir ses pulsions raciste et meurtrière. Et de l'autre côté, un sentiment d'injustice des jeunes qui seraient peut-être amenés à se radicaliser et à ne plus avoir d'espoir et se dire bah, « moi, je ne suis pas entendu, il n'y a plus rien pour moi ».
C'était le cas de votre frère, il ne croyait plus à rien?
Je l'avais souvent au téléphone quand il était à la maison d'arrêt de Châteaudun. Il me disait « tu sais, ils m'ont tué psychologiquement, ils m'ont tué ». Et 2 ans plus tard, ils l'ont assassiné 2 fois. Une fois à 13 ans et une autre fois à 28 ans.
Amal Bentounsi, j'ai fondé un collectif de familles de victimes qui s'appelle Urgence Notre Police Assassine. À chaque fois que des policiers tuent, il y a meurtre, mensonge, criminalisation de la victime à titre posthume. Mon frère Amin Bentounsi a été tué d'une balle dans le dos. La première version policière a été que Amin était un braqueur à ce moment-là. Comme n'importe quel citoyen qui regardait ma télé, je me suis dit, mon frère, il a joué, il a perdu.
Mais là déjà, ça commence à chauffer parce que il y a les jeunes qui commencent à s'affronter avec la police et les bombes lacrymogènes commencent à fuser de part et d'autre et de jets de pierre. Bah, c'est pas normal parce qu'ils n'ont pas compris, parce que on voulait juste leur faire savoir que c'est pas normal. Voilà, vous voyez, vous entendez une explosion d'une bombe lacrymogène. Bah, ils n'ont pas encore compris, parce que si on est là pacifiquement, c'est pour leur dire d'arrêter de faire cette violence-là. Mais bon, ils n'ont pas compris. Voilà, malheureusement.
Laissez de l'air.
Ils l'ont visé.
Oh Louis,
le chien, assassin.
Donc voilà, la place de la République, elle est encerclée. Bon, ils ont bouché toutes les issues. C'est la souricière. Alors il y a des petits groupes de manifestants qui défient dans les angles les forces de l'ordre, mais concrètement. Voilà, c'est pas terrible. Hein.
C'est vraiment pas terrible.
On dirait qu'ils attendent.
Ils sont plus prêts au combat qu'autre chose. Eh ben, ça peut qu'engendrer des confrontations. C'est ça, je comprends pas. Et pourquoi ne pas laisser sortir les gens? Comme ça, il n'y aurait plus personne sur la place. Bon, moi, j'ai mes sœurs qui sont dans la police. Vous voyez? Donc, je ne vais pas dire niquez-les. Mais maintenant, il y a un truc aussi, il faut qu'ils arrêtent. Tout de suite après le discours des gens politiciens, tout ça, je ne sais pas qui là, tout de suite, matraque et tout, ils se sont mis en posture de combat. Et pourquoi ça? Ben, quand on voit ça.
C'est du maintien de l'ordre, c'est un peu normal qu'il y ait des policiers. C'est une manifestation qui a été déclarée.
Il n'y avait rien qui se passait, ils ont quand même lancé des boules d'acrymogène là. Mais quand vous lancez ça, c'est normal que les gens même s'excitent aussi. Histoire de Théo, moi je trouve que. C'est pas bien ce qu'ils ont fait, mais ça dure trop longtemps, ça. Donc, s'ils avaient fait ce qu'il fallait dès le départ, punir, machin, tout vraiment comme ça devrait se faire, eh bien, tout simplement, il n'y aurait pas eu tout ça.
Toute l'année, il y en a des bavures.
Ouais, souvent. Souvent, il y en a, ouais.
Moi, je vous montre toutes les balafres que j'ai. Je peux vous dire, c'est la police qui me les a fait. Des contrôles qui dégénèrent. Pourquoi vous souriez? Moi, je suis de nature souriante. Il suffit que, voilà, on sourit, c'est pas normal. Voilà, voilà.
Là, vous avez une cicatrice entre les deux yeux.
Ouais, ouais, c'est un policier qui me l'a fait. Ça date à l'époque de Khaled Kelkal, je ne sais pas si vous vous souvenez.
Khaled Kelkal, le terroriste.
Khaled Kelkal, ouais, un terroriste. Et moi, j'étais étudiant à ce moment-là. On m'a contrôlé et ça m'a marqué parce que je lui ai donné mes papiers. Il m'a dit « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Je lui ai dit « Je suis étudiant. » Il m'a dit « Kelkal aussi, il était étudiant. » Il m'a matraqué. Voilà. Il m'a matraqué à ce moment-là alors que j'étais en bas de chez moi.
Et là, je vois que vous avez une cicatrice sur la tête.
C'est la police aussi. Là. Voilà. Mais faut dire aussi que moi, j'ai pris des coups de batte, j'ai pris des... Et le pire, c'est que souvent, les plus violents, ils sont connus. Ils ont tous des surnoms dans les quartiers. Et les gens les connaissent, la population les connaît, les commissaires les connaissent. Il y a une impunité. Et quand ça se passe pas devant les caméras, bah, c'est un huis clos, ils font ce qu'ils veulent. Voilà.
J'ai déjà vu aussi des contrôles à Porte quand j'habitais à Porte de Bagnolet. Les mains sur le mur, bande de fils de pute.
Mais ça, c'est quotidien, ça, les insultes, les tutoiements, les insultes, ça marque les insultes. Voilà, quand quelqu'un te regarde dans les yeux, il dit nique ta mère, voilà, il a un brassard, un écusson, c'est désagréable.
Un autre truc que je voulais signaler, par contre, c'est pourquoi quand on arrête quelqu'un, on lui met les menottes. Au lieu de l'emmener tout simplement dans la voiture, eh ben il faut qu'on le mette par terre, il faut qu'on mette son genou sur sa tête, sur sa poitrine, et ils sont 4-5 à le faire. Ça, je ne comprends pas ça. Donc c'est là que ça devient une discrimination.
C'est peut-être au niveau des techniques, de la formation des policiers.
Oui, mais non, mais le gars, il donne ses bras. Vous l'avez menotté. Amenez-le tranquillement en marchant. Pourquoi le mettre par terre? Ça, c'est de l'humiliation.
Après, je peux vous raconter plein de contrôles qui se sont bien passés aussi, hein. Où on a rigolé, où on a discuté, il y a des moments des fois où ça se passe bien. Voilà, faut être un peu psychologue, faut savoir comment se comporter. Ça prend un contrôle, voilà. Il y a des choses à dire, des choses à pas dire, des choses à faire, des choses à pas faire. Quand j'étais plus jeune, que on va dire, je me baladais plus souvent avec mes amis, on se faisait contrôler, on va dire, tous les jours. Des contrôles dans les transports, des contrôles en bas de chez soi, des contrôles en voiture, tous les jours. Voilà, moi pour éviter de me faire contrôler, à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait marcher tout seul. J'ai compris que dans la voiture, il fallait pas être deux. J'ai compris qu'il fallait enlever sa casquette. J'ai compris qu'il fallait se fondre dans la masse pour éviter les contrôles.
Comme ça, justement.
Voilà, mettre la musique moins fort. Voilà, c'est tout un tas de comportements adoptés pour. Et à partir de là, ça se passe bien en général. Après, voilà, faut pas chercher entre guillemets les problèmes. Même si parfois ils arrivent tout seuls, faut savoir les éviter en fait. C'est ce que je conseille.
Moi, je peux pas m'adapter et j'accepte pas ça, moi, du tout. Je n'accepte pas ça du tout, parce que les gens, on a des envies. Si l'autre il a envie de mettre sa casquette à l'envers, il le met à l'envers. Si l'autre il a envie de mettre son foulard, elle met son foulard. Voilà, je ne sais pas, l'être humain est censé être intelligent, pourquoi on ne peut pas vivre ensemble bien tranquille?
Pourquoi vous êtes là aujourd'hui, madame?
Ben, je suis venue pour demander justice pour Théo, parce que je pense que toute faute doit être sanctionnée, que ce soit pour un citoyen lambda que pour la police. L'impunité permet aussi de donner une mauvaise image de la police. Et on comprend maintenant pourquoi Ziad et Bouna, quand ils ont vu la police, ils couraient parce qu'ils avaient peur et ils sont morts.
Vous avez des enfants?
Oui. Ils sortent accompagnés parce que sans nous, ils ne sortiront pas. Parce que dès qu'ils sont dans la rue, ils sont délinquants potentiels. Et face à la police, ils n'ont pas la garantie de rentrer sains et saufs. Alors qu'ils peuvent descendre, prendre l'air avec leurs camarades de leur âge et c'est devenu dangereux. Et maintenant, avec l'état de siège, on voit les policiers, les gens armés avec les armes en bandoulière. Ben, nous, on leur dit d'être polis. Même s'ils n'ont rien fait, il ne faut pas qu'ils courent. Si la police les embarque, ce n'est pas un problème, on va aller les chercher. Maintenant, on a peur de notre police, c'est honteux. Hein. On paye nos impôts, on a peur de notre propre police. Comme ils ne nous respectent pas, ils tutoient tout de suite. Devant les enfants, ils commencent à insulter les parents. Donc les enfants, ils nous voient comme ça, ils disent nos parents, ils ont peur. Ben, on a peur. Et tous les parents doivent avoir peur de la police. Et puis, nous, on a honte de ne pas répondre à la police. quand je les vois, je pense que comme ils accusent tout le monde, si on sait qu'on n'a pas commis quelque chose, je me laisse embarquer, je ne leur fais pas remarquer et on verra après si on ne me tape pas, si on ne me viole pas, on verra après à la justice. Il y a deux poids, deux mesures. Certains peuples, par exemple les Noirs et les Arabes, on peut dire que nous, on n'est pas respectés, on ne nous considère pas comme des citoyens à part entière. Donc nous, on se sent français, on est français. Nos ancêtres ont libéré ces pays. Moi, 17 personnes de ma famille sont mortes pendant les deux guerres mondiales. Et on nous considère des étrangers. Qu'est-ce qu'il fallait que nous, on fasse? C'est parce qu'on a la peau noire ou un accent qu'on n'est pas français. Les Corses, ils ont bien un accent. Les Marseillais, ils ont un accent. Mais ils ne sont jamais jugés par leur accent. Et donc, moi, je me sens française par le sang donné et je me sens française par la nationalité, sauf qu'à chaque fois, on me rappelle comme si je suis quelqu'un de l'étranger. Donc, d'abord, il faut qu'on nous respecte. Même dans l'histoire, dans l'école, jamais on parle des Français d'origine étrangère qui ont libéré la France. On nous dit que les Américains nous ont libérés. Moi, je sais que mes arrière-grands-pères sont venus mourir ici, ses oncles, toute ma famille sont venus de la Première Guerre mondiale à la Deuxième Guerre mondiale. Jamais on a parlé d'eux dans l'histoire. Dans le charnier, il y avait surtout des Arabes, des Noirs et tous les gens de la colonie qui sont venus sauver la France pendant que la France était collabo en France. Et ces gens-là, on ne parle pas d'eux. On est en colère parce qu'on trouve qu'on n'est pas considéré, mais par contre, on n'a pas de la haine. C'est notre pays et on veut que ça change. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on ne se désespère pas. On espère qu'il y a beaucoup de Français qui sont des gens droits, qui sont bons. Et avec eux, on pourra faire quelque chose avec du respect, avec l'amitié entre tous les peuples.
Déteste la police, déteste la police, déteste la police, déteste la police, déteste la police.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, violence policière, un reportage de Rémi Douate réalisé par Emmanuel Geoffroy. L'attaché de production, c'est Sandrine Chapon. La stagiaire du moment s'appelle Jeanne Boézek. Merci à tous les manifestants qui ont accepté de nous parler. Un coup de chapeau à Rémi Douate et à Emmanuel Geoffroy qui ont monté et tourné ce reportage en un temps record. Des commentaires, des réactions, des suggestions, c'est sur les réseaux sociaux, on vous y attend nombreux. Nous avons une page Facebook et un compte Twitter qui ne demande que des likes, des retweets et des partages de notre travail si il vous a intéressé.